Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
L'été revient et avec lui tous ces spectacles d'histoire qui chaque année à la belle saison réveillent la mémoire des provinces de France. Franck Ferrand a choisi aujourd'hui de rendre hommage à tous les bénévoles qui, soir après soir, vont animer cette année encore tant de magnifiques sons et lumières. À tout seigneur, tout honneur, il a choisi de parler du plus célèbre d'entre eux cet après-midi sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Depuis 1978, des millions et des millions d'amoureux de l'histoire se sont pressés dans les immenses tribunes de la Cinécennie du Puy du Fou pour admirer sur une scène de 23 hectares, vous imaginez ça, les quelques 1200 comédiens et bénévoles et les 120 cavaliers qui animent des tableaux à coupe le souffle, des tableaux agrémentés de quelques 140 jets d'eau, un spectacle grandiose à la gloire de la Vendée et de son histoire parfois douloureuse, un spectacle créé de toutes pièces à l'époque par Philippe de Villiers, que l'on connaît par ailleurs pour son engagement politique. Évidemment, en cette période d'élections législatives, nous allons mettre la politique de côté, si vous le voulez bien. Ce n'est pas l'objet de cette émission, cela ne va pas nous empêcher d'évoquer cette saga inouïe du Puy du Fou, devenue en 2012, selon un jury international, tenez-vous bien, le plus beau parc thématique du monde. Un parc qui attire 1,5 million de visiteurs annuels. Nous allons l'évoquer en compagnie du créateur de tout cela, Philippe de Villiers, et de son fils Nicolas, l'actuel président de l'association du Puy du Fou et son directeur artistique depuis 2004.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
À l'origine des plus grandes réussites, il y a souvent un rêve insensé, un rêve d'amour que tous ceux qui autour ne sont pas encore habités par cette passion ont tendance à juger déraisonnable ou impossible ou irréalisable. À l'origine des plus grandes réussites, il y a presque toujours la rencontre d'un homme et d'un lieu. En cet été 1977, l'homme est un jeune élève de l'ENA de 28 ans, fils de militaire, Philippe de Villiers. Le lieu, c'est un château de la Renaissance largement en ruine, alors classé depuis 3 ans et tout juste racheté par le Conseil Général pour y installer un écomusée, le château du Puy du Fou, un nom charmant, un site superbe chargé d'ondes magnétiques. Je laisse la parole à Philippe de Villiers. En ce 3 juillet 1977, écrit-il dans un ouvrage qui vient de paraître chez Albin Michel, « Je contourne les hauts murs, je fais le grand tour, j'enjambe les ajoncs et les genêts sauvages et me voilà juste en face d'une immense pièce d'eau, assis dans des herbes hautes, sous 3 sapins poussifs, ébloui. » Mes yeux incrédules viennent se poser sur les fenêtres éventrées que traversent dans leur désinvolture les mésanges d'un soir d'été. Fascinante dislocation de ces pierres muettes, le choc. Si ce château n'avait pas été en ruine, il n'aurait rien éveillé en moi. C'est la souffrance, ce sont ces élancements douloureux, ce cri du cœur qui lui donne son relief d'humanité et de force tragique. Il ressemble à nos cœurs dévastés, ce château pleure tout seul, entrailles ouvertes, et personne ne l'a jamais consolé. Silence. Je tends l'oreille, j'entends au loin les ardeurs mélodieuses des derniers darioleurs qui commandent leur labour et tirent des entrailles de la terre l'écho sublime du jour qui meurt. Peu à peu, le ciel se charge, le poids de l'histoire. Ici tout a un sens, ce ciel qui s'assombrit semble diffuser à dessein un contraste de couleurs, d'épreuves et d'évanescence, étrange message. Instant fatidique, ajoute Philippe de Villiers, où le songe a trouvé son lieu. C'est là qu'il va finir sa course, un lieu puissant, un lieu qui parle, les arbres décharnés ont l'éloquence des morts naturelles, les ruines décapitées parlent de morts violentes. Un paysage intime où se bousculent les orages et les eaux calmes, un lieu qui est en soi une dramaturgie où dans le décor même, il y a déjà le glas, le tocsin et le glissement des sylphides, où dans le crépuscule s'allongent des ombres de géants et de genêts en fleurs. Je les sens, je les devine qui se lèvent, je vois un pays qui se dresse, toute une épopée est là sous mes yeux. Créer ici, c'est juste transcrire, ce lieu me fait vibrer, il m'inspire. Colline aux senteurs fortes de fleurs sauvages, je respire, touche, chavire, j'écris, la plume s'en va, s'en vient et défile les mots qui me reviennent, ceux-là même qui m'enchantaient au bord de ma rivière d'enfance. J'écris jusqu'à la tombée de la nuit, sous la voie lactée, j'écris mon rêve étoilé, criblé de 1000 chandelles suspendues, le puits du fou est né. En quelques années, la cinécénie du Puy du Fou va s'imposer comme le grand spectacle son et lumière de la Vendée, en attendant de devenir l'un des plus importants et même le plus important de France. Tous les vendredis et samedis soirs d'été, le site s'anime, il se transforme, il transcende son passé. De nombreux bénévoles, quelques professionnels rejouent pour le public l'histoire de la famille Maupillier sur des générations. Le clou du spectacle, ou plutôt son cœur, ce sont bien sûr les scènes ressuscitant le conflit vendéen aux pires heures de la Révolution. Le bouche à oreille va faire son œuvre. Dans les années 80, ce sont des centaines de milliers de spectateurs qui se pressent chaque année au Puy du Fou, devenu plus qu'un lieu de mémoire, une sorte de pèlerinage populaire aux sources d'une histoire longtemps occultée.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec un récit qui retrace la création d'un parc de loisirs pas tout à fait comme les autres, Franck nous parle aujourd'hui sur Europe 1 du parc vendéen, le Puy du Fou.
1989, c'est évidemment l'année du bicentenaire de la Révolution française et l'on voit beaucoup Philippe de Villiers à l'époque sur les écrans de télévision pour faire entendre un autre son à propos de cette Révolution française. Mais 1989, c'est l'époque où la marque Puy du Fou est devenue assez attrayante, où le site vendéen est assez connu du grand public pour qu'un parc de loisirs vienne se greffer sur le grand spectacle estival. C'est le grand parcours d'abord qui accueille les visiteurs pendant une journée au cœur d'un village vendéen du 18e siècle, et puis suivront la reconstitution d'une cité médiévale, celle d'un assaut de drakkar vikings, en attendant l'inauguration d'un immense colisée gallo-romain avec courses de chars et spectacles de gladiateurs, et puis celle du grand carrousel, gigantesque théâtre pour spectacle de cap et d'épée. N'oublions pas un fabuleux spectacle de fauconnier, ça s'appelle le bal des oiseaux fantômes, et depuis 2003, ce spectacle hallucinant met en scène près de 150 oiseaux de proie. C'est une chose à voir, évidemment. Alors désormais, chaque année apporte sa nouvelle attraction. La nouveauté de cette année va rendre hommage à La Fontaine, notre grand fabuliste, au cœur d'un complexe gigantesque qui, chaque jour, vous réserve de nouvelles surprises. Le créateur de cet enchantement historique, ainsi que son fils et principal animateur, sont avec nous aujourd'hui pour en parler. J'ai nommé Philippe et Nicolas de Villiers. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Alors vous avez exactement la même voix, ce qui ne va pas faciliter le travail de nos auditeurs pour savoir qui parle. Alors je me permettrai de dire Philippe ou Nicolas, comme ça on saura qui est au micro. Philippe de Villiers, j'ai raconté vraiment à très grands traits cet éblouissement natif, cette volonté initiale de faire naître le merveilleux dans un lieu qui, disons-le, ne s'y prêtait guère.
Ce sont des ruines déchiquetées qui éveillaient en moi un rêve que j'avais, c'était de faire un film en plein air. Et en relief.
D'où le terme de cinécénie.
Cinécénie, ça veut dire ciné, mouvement, cénie, espace. L'espace en mouvement. Et je me disais, avec le laser, avec le HMI, avec les nouvelles technologies, on va peut-être pouvoir restituer l'atmosphère d'un film, mais sur une scène de 23 hectares, ce qui était une gageure, et avec 1200 acteurs. Et c'est ce pari, c'est ce rêve que j'ai posé sur cette ruine déchiquetée avec ses ensements douloureux au Puy du Fou. Mais je ne savais pas à l'époque
que ça allait prendre une telle extension.
Qu'il y aurait en fait, après, quatre étapes, quatre défis, c'est-à-dire la cinécénie, succès, 78, 88, arrivée de Disney en France, on crée le grand parc du Puy du Fou, le parc de l'histoire de France. Et après, on crée l'Académie Junior du Puy du Fou avec nos écoles. Nicolas en parlera mieux que moi puisqu'il est le concepteur de cette académie qui réunit 24 académies dans lesquelles on apprend les savoir-faire nécessaires au spectacle du Puy du Fou. Et après, on crée la cité nocturne du Puy du Fou puisque le Puy du Fou est au bout du monde et que quand on y vient dormir. Et on choisit, Franck Ferrand, on choisit son siècle pour dormir lorsqu'on vient au Puy du Fou.
On me demande souvent dans quel siècle j'aurais aimé vivre. Mais chez vous, on a l'embarras du choix, c'est extraordinaire. Alors Nicolas de Villiers, vous êtes né, vous, avec, si je puis dire, le Puy du Fou. C'est toute votre vie et toute votre enfance, cet endroit.
Oui, je suis né au Puy du Fou, comme beaucoup en fait de bénévoles qui un jour ensuite ont pu, grâce aux académies et à l'Académie Junior, se former, apprendre un savoir-faire ou plusieurs savoir-faire et devenir des artistes qui ensuite ont pris les commandes finalement du Puy du Fou. Donc effectivement, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit.
Et la cinécénie, vous avez le sentiment de lui devoir quelque chose? Vous avez participé au spectacle? Vous avez été figurant? Enfin, j'imagine, je ne sais pas, je ne vous ai pas posé la question, mais ça me paraît évident, non?
Ah, j'étais sur la scène dès l'âge de 2 ans, dans les bras de ma chère maman. Et ensuite, j'ai progressé petit à petit pour apprendre à monter à cheval. Je suis devenu cavalier de spectacle, pour tout vous dire. Et puis oui, j'ai figuré dans la cinécénie, bien sûr. Et puis ensuite, dans les spectacles du parc. Et c'est ainsi que, de spectacle en spectacle, j'ai pu prendre mon envol.
Nous viendrons, je vous rassure Nicolas de Villiers, nous viendrons largement à tout ce que propose aujourd'hui le parc. Ce que nous allons commencer par faire, c'est raconter tout de même la cinécénie, ce qui est au cœur, après tout, de cette aventure, c'est-à-dire l'histoire revécue, réinventée du Puy du Fou.
Jusqu'à 14h sur Europe 1,
plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Et sur Europe 1, nous sommes précisément aujourd'hui au cœur du Puy du Fou avec vous, Franck, et vos invités.
Philippe et Nicolas de Villiers, père et fils, sont là pour nous parler aujourd'hui des secrets du Puy du Fou. C'est le titre de l'ouvrage qui raconte l'incroyable aventure de ce spectacle et de tout ce que ce spectacle a lancé. C'est publié chez Albin Michel. Et Philippe de Villiers, vous nous montrez que l'histoire que vous racontez est en partie une histoire mythique, disons-le. On n'est pas dans le travail historique, là, on est dans le travail de mémoire, plus exactement.
Oui, le travail de mémoire, mais qui parle de, évidemment, de la réalité historique. J'ai voulu réparer une injustice. Quand j'étais enfant, les Vendéens, on les appelait les Ventrachoux, à la DATAR, cette grande organisation technocratique qui visait à aménager et à détruire les territoires.
Pour le remembrement.
Oui, le remembrement des paysages à venir et pour l'urbanisation systématique, eh bien, on nous appelait les ruraux profonds. Et donc, les Vendéens baissaient la tête. Et je ne comprenais pas pourquoi. J'ai cherché à comprendre pourquoi. Alors qu'en réalité, en 14-18, ils ont brandi le drapeau tricolore dans la tranchée des baïonnettes. C'est en Vendée qu'il y a le plus de morts. Avec
proportionnellement
les Bretons et les Corses, ils sont tous tombés au service de la France en chantant la Marseillaise. Et pendant la dernière guerre, il y a eu beaucoup de paroisses vendéennes qui ont protégé, recueilli et sauver des enfants juifs. Donc je ne comprenais pas pourquoi.
Il n'y avait pas de honte en fait,
au contraire. Il n'y avait pas de honte et je ne comprenais pas pourquoi il y avait cette honte officielle sur la Vendée. Et puis j'ai compris qu'en réalité, j'avais marché sur la queue du serpent. Qu'en réalité, il y avait un problème entre la Vendée et l'histoire officielle. C'est ce qui s'est passé en Vendée en 1794. Je ne parle pas de la guerre civile entre les Bleus et les Blancs. Je parle de ce qui s'est passé en 1794.
La répression de la République.
C'est-à-dire le plan d'extermination qui a eu lieu en 1794. Au nom de la foi, les Vendéens se sont soulevés. Et donc c'est au nom de cette foi, au nom de la liberté de conscience, qu'a eu lieu la répression. Alors, c'est pas parce que... Ce qu'il y a d'extraordinaire avec la Vendée, moi, mon père, c'était un officier lorrain, il s'est battu. Mon grand-père est mort enveloppé dans le drapeau tricolore en chantant la Marseillaise. Donc, moi, je suis Vendéen. Plus on est Vendéen, plus on est Français. La Vendée est une petite miniature d'histoire de France. Moi, je suis né parce que mon père a rencontré ma mère chez Delattre. Donc, on n'a pas de complexe. C'est pas parce qu'on est Vendéen qu'on se met à l'écart de l'histoire de France. Au contraire, la Vendée, c'est un exemple merveilleux. Et d'ailleurs, c'est Napoléon qui a dénoué tout ça. Napoléon, quand il est venu en Vendée, il a dit « vous êtes des géants ». Donc, il a compris, en fait, ce qu'était la guerre de Vendée. Et donc, quand on est Français, on ne trie pas l'histoire comme dans le temps, dans les fermes, on triait la Maugette. On prend tout, on embrasse tout. Et moi, je suis Vendéen par Catelineau et par Clémenceau. Et c'est ce que mon père, qui était un soldat français, m'a expliqué. Il me dit « Tu es Vendéen, donc tu aurais été blanc, sans doute, du côté de la liberté en 93. En 14, tu ne te serais pas posé de questions, tu serais allé mourir étouffé dans la tranchée des baïonnettes. Et en 40, tu aurais choisi le bon camp, le camp de la résistance à l'oppression. »
Ça, c'est effectivement la dimension spécifiquement historique et c'est cette mémoire encore à vif d'une Vendée qui, pendant très longtemps, n'osait même pas raconter ses douleurs. Mais il y a aussi, dans le spectacle, j'ai envie de dire, il y a le souffle des siècles. On ne parle pas que de cette période révolutionnaire, loin de là. On suit une famille, la famille Maupillier, de génération en génération.
Ben, ce qui est, je reviens à votre expression mythique, ce qui est tout à fait incroyable, c'est que j'ai raconté une histoire que j'ai entièrement inventée, mais qui était vraie. C'est en fait l'histoire d'une famille, l'histoire Maupillier, qui a existé depuis le plus haut Moyen-Âge jusqu'à 1940, et dont les descendants se réunissent d'ailleurs chaque année au Puy du Fou, ayant essaimé dans le monde entier. Et ce qui est fascinant, c'est de voir cette famille, à chaque siècle, habitant toujours au même endroit, donc au Puy du Fou, une famille de paysans, et qui suit l'histoire et qui fait l'histoire, et c'est ce que j'ai essayé de raconter. Alors le Puy du Fou, pardon à ceux qui peuvent avoir l'oreille sensible sur les questions concernant la Révolution française, le Puy du Fou n'est pas une expression polémique.
Non,
c'est
du
un
tout,
poème. Mais... C'est un poème. Si ça n'avait pas été un poème, les gens ne viendraient pas aussi nombreux. C'est un poème avec des strophes. Alors, il y a des strophes joyeuses et il y a des strophes douloureuses. C'est le seul endroit où vous pouvez mettre et M. Sarkozy et M. Hollande et ils repartent tous les deux, les larmes aux yeux, en disant on est fiers d'être français.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Les secrets du Puy du Fou chez Albin Michel, c'est le titre du livre de votre invité sur Europe 1, Franck Philippe de Villiers, qui est venu avec son fils Nicolas, actuel président de l'association du Puy du Fou, également directeur artistique du parc depuis 2004.
Il fut un temps où l'on allait l'été au Puy du Fou pour passer la soirée et pour en prendre plein la vue, si je puis dire, devant l'extraordinaire spectacle son et lumière avec ses eaux, avec ses projections extraordinaires. Et puis, on rentrait gentiment chez soi. Aujourd'hui, Nicolas de Villiers, quand on va chez vous au Puy du Fou, on y va pour beaucoup plus longtemps, généralement.
Absolument. Maintenant, on peut passer 2 jours au Puy du Fou. Et c'est évidemment ce qui fait le charme du Puy du Fou et ce qui fait qu'on a séduit plus 1,5 million de personnes tous les ans qui viennent nous voir. 2 jours parce que nous avons prolongé finalement le rêve de jour, la nuit, avec la cité nocturne, on en parlait tout à l'heure, avec des hôtels qui ne sont pas vraiment des hôtels, qui sont des hébergements thématisés, c'est-à-dire qu'on peut choisir de dormir au 5e siècle par exemple, ou bien dans une villa gallo-romaine du 2e siècle, etc., etc. Et nous avons évidemment un programme...
Il y a quand même, je précise qu'il y a l'eau courante chaude et froide néanmoins. Et
évidemment, il y a tout le confort du 21e siècle parce que ça va de soi que nos visiteurs l'attendent, mais cela dit, nous avons un programme pour les années qui viennent qui nous permettra de développer cette cité nocturne et d'avoir ainsi presque tous les siècles de l'histoire de France. L'objectif étant de permettre à nos visiteurs de passer demain 3-4 jours au Puy du Fou avec suffisamment d'activités pour occuper et les enfants et les parents.
Comment est-ce que vous avez choisi les périodes de référence? Pourquoi les gladiateurs? Pourquoi les drakkars vikings? Pourquoi...
Alors c'est une très bonne question parce qu'on pourrait penser que c'est dans une logique marketing qu'on a choisi ces périodes. Et en réalité, c'est pas du tout dans une logique marketing, c'est dans une logique artistique. C'est-à-dire que nous, ce qui nous guide, c'est l'inspiration artistique. On choisit une époque parce que tout à coup, elle nous inspire un scénario, une petite histoire dans la grande histoire. Et de là, on va tirer un spectacle avec tous les ingrédients qui font le spectacle, qui dure une demi-heure en général dans le parc.
On est Philippe très, en écoutant Nicolas, je pensais qu'une chose, c'est qu'on est très marqué par le cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, pour faire le Stadium gallo-romain, on s'est dit, et si on faisait en direct tous les jours...
Le Stadium, c'est un cirque complet, en fait, hein, qui ressemble un peu à un Colisée.
C'est un mélange du Colisée romain et du Circus Maximus.
C'est ça.
C'est un ovale, en fait. Et donc, qui permet à la fois l'intervention des chars, des quadriges, et... des fauves. Et alors, on a pensé avec Nicolas, évidemment, à Spartacus, Covadis, Ben-Hur, enfin, tous les ce qu'on appelle le péplum. Bon. Et on est souvent inspiré comme ça par le cinéma ou par la chanson, parce qu'on peut dévoiler juste qu'on a un projet pour le XXe siècle, qui est le Café de légende sur les grandes chansons françaises mises en scène sous la forme d'un film en direct. Voilà. Voilà, mais ce que je voulais insister sur cette dimension cinématographique. Un enfant qui voit Ben-Hur, il se dit « je ne reverrai jamais Ben-Hur de ma vie ». Or, au Puy du Fou, il y a les origes, il y a les quadriges, il y a la course de chars reconstituée 3 fois par jour. Alors, au cinéma, on peut tricher. Au Puy du Fou, on ne peut pas tricher.
Ah oui, vous êtes obligé de...
Et vous savez qu'un quadrige, c'est ce qu'on appelle la Formule 1 de l'attelage. Alors, vous avez les deux timoniers à l'intérieur qui dirigent. les deux galériens à l'extérieur, un qui doit aller 10 km à l'heure plus vite, et à l'intérieur 10 km à l'heure
plus vite.
Sinon, le char s'emporte et il y a danger, il y a même danger pour la sécurité.
Est-ce que vous avez été, pour les besoins du spectacle et de la mise en scène, est-ce que vous avez été amené à redécouvrir un certain nombre de pratiques antiques? Je pense tout simplement, l'idée qui me vient à l'esprit, c'est le grand vélum qui est au-dessus du
absolument,
cirque.
Oui,
et qui est le premier grand vélum remis en circulation, en service depuis l'Antiquité romaine.
Alors absolument, l'histoire du vélum est passionnante parce qu'en fait, on avait ce projet de faire un vélum, c'est-à-dire de couvrir notre arène romaine, mais avec un vélum qui devait ressembler à peu près à ce que c'était à l'époque. Et puis en fait, on n'avait pas les formules mathématiques parce qu'elles se sont perdues. Et finalement, on a trouvé sur notre route, par chance, un ingénieur qui est venu nous rendre visite, qui a 80 ans et qui s'est passionné toute sa vie pour cette question-là, et qui nous a dit « mais moi, je vais vous faire votre vélum ». Il a sorti un certain nombre de théories mathématiques extraordinaires. On a soumis ça à Dassault Systèmes et un certain nombre de cabinets d'ingénieurs avec qui nous travaillions à l'époque pour ce projet. Et on s'est aperçu que ces théories étaient tout à fait valables. Et du coup, on a réussi à faire le vélum grâce à des théories complètement retrouvées par cet ingénieur qui a consacré sa vie à ça. Et finalement, grâce à lui, on a retrouvé le vélum. Et je pourrais vous donner plein d'exemples. Par exemple, on a fait pendant des années des épées de combat qui servaient dans les spectacles, qui étaient en aluminium, parce que l'aluminium est léger. Et en fait, on s'enfermait dans une erreur, c'est qu'on pensait que l'aluminium léger permettrait aux combattants de moins se fatiguer. En fait, les épées cassaient en permanence parce que finalement, ils donnent des vrais coups. Et notre forgeron taillandier, qui est un jeune forgeron qui a travaillé avec des maîtres dans toute la France et qui a retrouvé les savoir-faire ancestraux médiévaux, qui extrait vraiment le minerai depuis le départ pour fabriquer chacune de ses épées, nous a proposé de nous fabriquer des épées avec la vraie méthode médiévale. Et depuis qu'on a fabriqué ces épées-là, on s'est aperçu qu'elles étaient beaucoup plus équilibrées, évidemment beaucoup plus solides, au passage tranchantes, et donc... Maintenant, nous ne nous battons dans les spectacles qu'avec des vraies épées. Et il y a un certain nombre d'exemples comme ça que je pourrais vous énumérer, mais qui sont passionnants et qui prouvent que finalement, à vouloir réinventer des choses authentiques, eh bien parfois on se trompe, il vaut mieux retrouver les vrais savoir-faire ancestraux.
Alors maintenant que vous avez les lieux, je pense au Grand Carrousel pour le spectacle plus récent sur Richelieu, les Mousquetaires, etc. Ça ne vous donne pas envie d'aller un peu moins vers le spectacle de sport, si je puis dire, et un peu plus vers la culture? Pourquoi pas monter une pièce de théâtre carrément dans un endroit comme celui-là?
Mais c'est marrant parce que tous les metteurs en scène...
L'année prochaine, si vous venez, vous verrez les Chevaliers de la Table Ronde.
Ah ben voilà, par exemple.
Mais c'est plus que du théâtre, vous verrez. Parce qu'un jour, un membre du jury de l'Oscar que nous avons reçu nous a dit « En fait, vous êtes des Français ?» Vous faites ce que les Américains feraient s'ils avaient votre culture.
C'est ça, bravo, c'est ça.
Et nous, on cherche, on met de la machinerie, mais si vous voulez, quand on fait sortir de l'eau au carrousel à partir d'une géomembrane dont on a le secret dans le monde entier, qu'on ne partage avec personne, ben on est content parce que tout à coup, ça devient le lac de Grenade. Voilà, et c'est à chaque fois quelque chose d'inédit. Donc, on essaye de faire du théâtre, cinéma, opéra, ballet, tout en même temps.
Et c'est le mélange de ces genres-là qui fait le succès du Puy du Fou et ce qui fait que c'est très populaire, bien sûr.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est le parc de loisirs à thématique historique qui chaque année reçoit près d'1,5 million de visiteurs. Vous comprenez donc pourquoi, cher Franck, est aussi intarissable sur le sujet.
Il y a une chose que je voulais vous demander, à l'un comme à l'autre, Nicolas et Philippe de Villiers, c'est la dimension, j'allais dire, initiatique d'une journée au Puy du Fou. Le public qui vient là doit déjà disposer d'un certain nombre de références. Lorsqu'on voit surgir un drakkar viking ou lorsqu'on assiste à un combat de gladiateurs, il faut savoir à peu près à quelle époque on se situe et dans quel contexte. Est-ce que vous attachez de l'importance à cette contextualisation, pour employer un mot barbare, ou disons tout simplement à cette ambiance ?
Pas vraiment. Vous savez, nous, on fait du spectacle dans le sens où on ne se prend pas pour des enseignants, pour des professeurs des écoles. On se prend simplement pour des artistes. Et mon père disait tout à l'heure, finalement, le Puy du Fou, c'est un poème. Donc, beaucoup de choses sont suggérées. C'est-à-dire que finalement, nos scénarii, notamment dans le parc, je vous disais, les spectacles durent environ une demi-heure chacun. Ce sont des formats qui permettent aux familles, aux jeunes enfants de suivre les histoires en respectant bien la règle du théâtre classique, unité de temps, unité de lieu dans l'action. Finalement, on arrive à être très compréhensible, très lisible. possible. Alors bien sûr, on va faire appel à quelques images d'Épinal. Je vous donne un exemple. Les Vikings n'avaient pas de cornes sur leur casque et pourtant on en met parce que sinon...
Sinon les gens s'attendent à les voir.
Voilà, et nos visiteurs évidemment se demandent pourquoi les Vikings n'auraient pas de cornes alors qu'on pense qu'ils en ont et ainsi de suite. Donc oui, on fait appel plutôt aux images d'Épinal qu'à la vérité historique scientifique, même si à chaque fois on est extrêmement pointilleux, un peu comme dans le cinéma.
Mais ce que vous mobilisez, c'est bien un imaginaire. Alors je dis souvent, moi, pardon de ramener ma petite expérience sur ce tapis où j'ai l'impression de ne pas toucher terre du tout, mais je dis souvent que pour s'amuser avec l'histoire, pour revenir sur un certain nombre de thèses officielles, faut-il encore que les gens possèdent le substrat de base, le socle sur lequel on peut ensuite construire des raffinements, des remises en cause. Et dans votre cas, c'est la même chose. Lorsque vous présentez une rue 1900, faut-il encore savoir à peu près de quoi est faite la Belle Époque ?
Absolument, mais il s'agit plus pour nous de raconter des histoires inspirées de la grande histoire que de chercher à rétablir telle ou telle vérité historique sur le parc.
Donc, vous voyez, c'est
pour ça que finalement, oui, on fait appel plutôt à l'imaginaire des gens et on les emmène, mais d'une manière peut-être plus profonde et peut-être plus intelligente, vous diriez, culturellement parlant, dans un univers à chaque fois différent d'époque en époque.
Il y a des époques qui ont plus la cote que d'autres. On veut aller plus volontiers dormir au 5e siècle ou bien au 17e ?
Eh bien, pas vraiment. C'est-à-dire que pourtant, on fait des classements toutes les semaines de nos spectacles et on s'aperçoit que les spectacles qui arrivent en tête sont presque toutes les semaines différents. Donc finalement, c'est une bonne chose.
Et ce sont les mêmes animateurs et les mêmes comédiens dans les différentes attractions ?
Alors, on a évidemment des grosses équipes. Vous savez, le Puy du Fou aujourd'hui emploie 1000 personnes, plus de 1000 personnes, puisque nous avons un grand nombre d'artistes.
Vous êtes devenu un pôle économique, disons-le.
D'une certaine manière, on estime à 3500 emplois indirects générés par le Puy du Fou, par nos activités, tout autour du Puy du Fou, plus les 1000 personnes que nous employons nous-mêmes. Effectivement, ça commence à devenir un vrai pôle économique. Oui. Mais ce n'est pas l'enjeu, ce n'est pas ce qui nous motive et ce qui nous passionne. Ce qui nous passionne, c'est la création.
Ça doit vous donner parfois le vertige, Philippe de Villiers, cette réussite incroyable.
J'aurais ajouté à ce qu'a dit Nicolas quelque chose sur l'architecture. Les gens qui nous écoutent peuvent se dire « Oh là là, c'est un gros business, etc. » Pas du tout. C'est un modèle associatif. Vous avez 3200 membres dans l'association du Puy du Fou et 1200 même salariés, saisonniers dans le Grand Parc. Il n'y a pas de droit d'auteur pour le fondateur, votre serviteur. Nous réinvestissons tout l'argent gagné au Puy du Fou dans l'œuvre. Il n'y a ni subvention, alors que j'ai été président du Conseil général de la Vendée pendant 22 ans. Nous n'avons pas voulu non plus faire entrer des entreprises dans le capital du Puy du Fou, parce que si on avait un actionnaire, il nous imposerait non seulement des dividendes, mais aussi une ligne marketing, ce que disait Nicolas tout à l'heure très justement. Il n'y a pas de marketing au Puy du Fou, on fait ce qu'on a envie de faire au moment où on a envie de le faire. Donc le Puy du Fou est une œuvre de gratuité. Il y a même Puy du Fou Espérance, présidé par René Bossard. Puy du Fou Espérance est une fondation pour donner des moyens, par exemple, aux enfants de Madagascar, aux enfants dans le monde entier. Et c'est pas du tout une entreprise au sens classique du terme. C'est certes une entreprise en concurrence avec d'autres parcs, mais c'est aussi et d'abord, je dirais, une œuvre de l'esprit et du cœur.
En tout cas, ce n'est pas une entreprise dirigée par des gestionnaires, mais c'est une entreprise dirigée par des artistes.
Oui, ça,
c'est ce qui fait toute la différence.
On le comprend clairement en vous entendant. Vous venez de recevoir cette distinction. Un jury international a choisi le Puy du Fou le considère comme le plus beau parc thématique du monde. La thématique en question, elle est très vaste, mais elle est tournée vers le passé. C'est bien un parc historique que vous avez voulu créer.
Oui, c'est l'histoire. C'est un livre d'histoire vivante à ciel ouvert. C'est-à-dire qu'on entre, quand on entre dans le Puy du Fou...
Et c'est le seul cas au monde d'un parc qui soit centré sur l'histoire.
C'est le seul cas au monde. D'ailleurs, quand on a eu notre Oscar, on était parmi 700 parcs et spectacles dans le monde. Et nous étions le seul dans ce cas-là. Donc effectivement, c'était tous les Américains et les gens du monde entier à Los Angeles, quand ils nous ont remis notre Oscar, nous regardaient comme des bêtes curieuses. Mais en même temps, en goûtant le concept, c'est vrai que c'est très original.
Et vous n'avez pas qu'un public français, il faut le dire.
Oui, on a à peu près 9% d'étrangers, de visiteurs étrangers qui viennent de toute l'Europe. Mais on espère bien sûr attirer encore davantage d'étrangers parce que nos spectacles sont universels et s'adressent à toutes les cultures.
Mais il faut les faire connaître, ça n'est pas très facile, je suis bien placé pour
nous
le savoir. Lorsqu'on parle
vous.
D'histoire, ça n'est pas très facile de se faire connaître.
Mais nous comptons sur Franck Ferrand et son talent pour faire parler du Puy du Fou.
Alors, vous savez qu'on a la chance d'avoir des grands artistes dans tous les domaines qui viennent apporter leur offrande, en quelque sorte,
oui,
au Puy du Fou. Et par exemple, le monde imaginaire de La Fontaine que vous citiez tout à l'heure a bénéficié du concours gracieux de Gérard Depardieu, de Laurent Deutsch, qui ont apporté leur voix le plus gratuitement du monde. Donc là, on va inaugurer bientôt le voyage aromatique de Marc Vera, le grand cuisinier français.
Donc, cuisinier savoyard.
On a plusieurs compositeurs de musique comme Carlos Núñez, comme Nick Glennie-Smith. Enfin, bref, le monde entier s'intéresse au Puy du Fou. Et les célébrités du monde entier viennent au Puy du Fou déposer leur œuvre, sertir leur petit bijou qui vient compléter notre œuvre. Donc ça, c'est pour nous très touchant.
La fontaine, c'est la nouveauté de l'année. Il y en a d'autres, Nicolas ?
Oui, il y en a un certain nombre d'autres, mais nous axons toujours chaque année nos efforts sur une grande nouveauté. Le monde imaginaire de la fontaine, c'est vraiment la nouveauté qui marque l'année au Grand Parc. C'est une nouveauté qui permet aux familles avec des jeunes enfants de redécouvrir les fables de la fontaine de manière évidemment très amusante, avec des jeux, etc., interactifs pour les enfants. Et puis nous avons aussi chaque année des nouveautés très importantes dans la Cinécennie. On en parlait au début de cette émission, et la Cinécennie, qui est le cœur battant finalement du Puy du Fou, puisque c'est le cœur historique, on l'a fait évoluer de telle sorte qu'elle est toujours et elle doit garder cette distinction d'être le plus grand spectacle de nuit au monde.
Cette Cinécennie reste, j'imagine, le cœur battant de tout ce que vous faites, bien entendu.
Absolument, parce qu'on le disait à la fois, d'abord la Cinécennie est toujours animée par des bénévoles, c'est la force du Puy du Fou que d'avoir gardé cet état d'esprit de bonne volonté. Bénévolat, ça veut dire bonne volonté, et finalement il a irradié auprès de tous les employés qui sont devenus, qu'ils soient saisonniers permanents, finalement dans le même esprit des artistes au service de l'œuvre. Et ce qui fait la force de toute cette communauté, qu'elle soit bénévole, saisonnière, permanente, peu importe, c'est qu'elle met l'œuvre au-dessus d'elle-même. Et c'est ça que le visiteur ressent dès son arrivée au Puy du Fou, depuis son premier regard échangé avec nos équipes sur les parkings, jusque évidemment dans tous les spectacles. Chacun porte à sa place l'œuvre avec toute son énergie et toute sa passion.
Les secrets du Puy du Fou, c'est l'histoire de cette formidable aventure. C'est édité chez Albin Michel. Merci beaucoup à tous les deux. Et je regrette beaucoup finalement que nous ayons fait cette émission ici à Paris en studio. La prochaine fois, il faudra la faire sur place en duplex. Et nous nous promènerons entre la Gaule romaine et les spectacles de KPDP.
Nous vous attendons au Puy du Fou.